Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Des livres que leurs auteurs n'ont jamais vus, ne verront jamais. Publication posthume, donc, comme on peut le deviner. Mais quel genre de texte? Un produit fini, un inédit? Ou mieux, un livre à rassembler, à inventer, au sens où l'on découvre, par hasard ou par flair, peut-être dans une vieille malle au grenier, le livre en question ou le livre à fabriquer. Et à l'arrivée, une maison d'édition, celle de Claire Poulan, sujet d'observation d'un Surpris par la nuit, proposé pour la première fois sur France Culture le 21 décembre 2004.
Surpris par la nuit.
Tout est sous des draps,
ouais.
Les piles.
Et c'est pas vraiment une cave, c'est un truc en hauteur. Donc il faut monter une échelle très raide.
Vous cherchez les livres et vous descendez avec du carton livre.
Oui, j'ai un palan là-haut. Je mets ça dans un sac et je le descends avec une corde. C'est très marrant.
Ah oui, c'est complètement invraisemblable.
C'est le seul endroit que j'ai près de la maison. Donc, alors pitié, hein, faites attention.
La vie privée des éditions Claire Poulan. Une émission proposée par Béatrice Leca.
Alors c'est une cave de quoi? 1m50 de haut? Même pas. 1m10 de haut.
Ah, c'est un peu plus. Elle doit faire 1m50 de haut, mais elle est très profonde.
Sous la poussière et la rouille.
Oui, les livres sont protégés par des draps. Très beau.
Le seul problème, c'est qu'elle est en hauteur. Et là, donc, j'ai mes piles titre par titre.
Sans les couvertures.
Ah, ça, c'est les... Oui, parce que les couvertures, je les mets chez moi. Les couvertures, elles sont dans un coffre que j'ai chez moi. Donc là, c'est vraiment les stocks de livres bruts, quoi, ou dans les cartons. Ça, c'est la pile de Mauriac Poulan, par exemple. Là, c'est les Valérie Larbeau.
C'est quand même sec.
Derrière. Ah oui, c'est très sec.
Oui,
ouais, c'est très sec et les livres s'abîment pas aussi parce qu'ils prennent pas la lumière, quand même. Mais donc, c'est là où, quand je reçois des livres, je les reçois dans la cour, je les défais dans la cour, je les recouvre chez moi, et puis... Je mets une partie du stock ici. Donc ça, c'est physiquement un petit peu éprouvant. En général, quand je reçois des livres, je suis crevée pendant une semaine. Mais bon, voilà.
Là, il y a combien de livres à peu près? On voit surtout on dirait comme des meubles dans la maison des morts aussi. Tout est couvert de draps blancs.
Oui. Je sais pas combien il y a de livres, mais il y a tous les titres sauf Catherine Pozzi qui est épuisée. Il y a tout.
Ah, donc tout le stock de la maison d'édition,
ouais,
est ici,
ouais,
en hauteur.
Oui, et donc chaque fois que je fais un nouveau livre, il faut que je déplace un peu toute la structure de la cave, toute l'organisation de la cave pour pouvoir mettre une nouvelle pile, quoi.
Il n'y a plus tellement de place, hein.
Si, si.
Donc, c'est tout Mireille Havé.
Mireille Havé, je vois qu'elle est dernière. Je sais à peu près où c'est, de temps en temps je cherche, mais bon, attention la tête.
Ça y est, j'y suis.
Voilà ma cage.
Alors, c'est où les éditions Claire Poulan?
Eh bien, c'est chez moi. D'abord par manque de moyens. Autre pour me louer un autre endroit. Et puis surtout parce que j'aime beaucoup travailler chez moi. Et j'aime beaucoup travailler seule chez moi. Je trouve que c'est un grand privilège. D'une part d'être tranquille, d'autre part d'être dans un endroit silencieux où on a ses marques. Et une partie de mes marques, c'est ma maison d'édition.
Et qu'est-ce que ça veut dire comme encombrement, comme livre, comme présence concrète des choses qui font une maison d'édition?
Ah, pratiquement, c'est la menace de l'envahissement par les stocks de livres, ça c'est sûr, par la paperasserie. Quelque chose qui m'obsède complètement, c'est l'ordre et le retard, ou l'ordre et le désordre. Et je passe un grand temps à essayer de lutter contre le retard, lutter contre le désordre, donc ranger. Il m'arrive, c'est peut-être un peu idiot de dire ça, mais de me relever au milieu de la nuit par un goût de l'insomnie, on va dire. Et il y a une seule chose qui me calme, c'est de mettre de l'ordre dans mon bureau, dans mes papiers d'édition. Je serais incapable de travailler parce que je suis trop fatiguée en général. Mais mettre de l'ordre, ça c'est quelque chose que je fais volontiers et qui m'endort délicieusement, bien mieux que n'importe quel médicament.
Et comment elle est née, cette maison d'édition ?
Elle est née en 96, je venais d'avoir 40 ans, ça a beaucoup compté pour moi. Et jusque-là, j'avais été de maison d'édition en maison d'édition. Je voyais bien que la situation économique était telle, et intellectuelle d'ailleurs, que mon destin éditorial était condamné aussi par refus de départ des grandes maisons d'édition. C'est précisément ce que je voulais fuir, le principe des grandes maisons d'édition.
Quand vous dites votre destin éditorial, c'est-à-dire le projet de livre que vous aviez, n'était pas accepté par les maisons d'édition ?
Il pouvait être accepté. Mais c'est moi qui l'acceptais pas dans la forme que les grosses maisons d'édition, grosses dites Gallimard, je sais pas moi, Séguère, Sabin Michel, etc., que ces grosses maisons d'édition m'auraient permis, je pense qu'elles ne m'auraient pas donné les coups des franches pour faire très exactement ce que je voulais ou ce que je veux. Et la seule personne qui peut me donner les coups des franches, c'est moi. C'est le côté seul maître à bord, quoi.
C'est parce que ça coûte trop cher ou parce que c'est trop long ou c'est pour quelle raison ça peut pas être...
Il y a effectivement la question du travail. C'est un travail qui peut absolument pas être rémunéré à sa juste mesure. C'est-à-dire que tant d'heures de travail ne sont pas payées tant d'heures de travail. Donc à partir du moment où on a fait ce deuil-là, qui est d'ailleurs pas très compliqué puisqu'on est mené en gros par une passion, une envie de publier un tel livre, donc on passe sur tout ce qui est masse de travail à fournir. Une fois qu'on a fait ce deuil-là, il vaut mieux travailler pour soi que pour les autres. Donc, il faut juste sauter le pas. Et économiquement, en tout cas en 96, et je pense que c'est encore jouable maintenant, avec les aides techniques que l'on a, avec les ordinateurs, la manière dont on peut contrôler l'édition jusqu'au moment de l'impression et de la fabrication pure, on peut aller jusque-là, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a encore une vingtaine d'années, on s'arrêtait vraiment en amont, très très en amont de la fabrication des livres. Donc à partir du moment où on a ces outils de travail qui ne coûtent pas très cher, qu'on peut maîtriser individuellement chez soi, je ne vois pas pourquoi on va se mettre dans la main de quelqu'un d'autre qui vous dira « non, pas ce titre-là, non, et vous n'avez pas encore fini, et on avait prévu l'office d'il y a dans 20 jours, et vous êtes loin du compte, etc. » Autant pas se donner de contraintes, si c'est pour avoir la contrainte maximale qui est de travailler énormément pour rien.
Ce sont de très beaux livres. À cause de leur couleur, ils forment dans la bibliothèque comme un jeu. Gris moucheté, framboise, bleu Provence, brique, saumon, bleu clair, vermouth, vert d'eau, safran, leurs auteurs ne les ont jamais vus. Depuis plusieurs années, Claire Polan publie les journaux et correspondances d'écrivains admirés, feuillets retrouvés, réunis, décryptés, annotés, qui forment un livre. C'est parfois l'autre versant de ce qu'on appelle l'œuvre, c'est parfois l'œuvre elle-même, et on ne sait pas s'il faut toujours faire la différence. Le scrupuleux travail d'édition fait oublier les histoires bancales, bizarres de chaque volume, née de cette zone de rêve devenue inutile, de vieilles confidences, zone de trésors négligés, les archives, qu'un autre regard anime et métamorphose en texte vivant.
Je me suis toujours reproché d'avoir mis autant de temps avant de sauter le pas. Et en fait, il a fallu la mort de mon père, le petit héritage qu'il m'a laissé, l'idée que cet argent, je ne voulais pas l'utiliser à quelque chose d'incohérent, je ne voulais pas qu'il me file entre les doigts non plus. Et je me suis dit que c'était, puisque c'était de l'argent qui venait de mon père, il me venait aussi de mon grand-père, Champollion, et que donc c'était de l'argent en gros qui avait à voir avec les livres. Donc c'était, moi je l'ai pris comme un signe. Voilà, à 40 ans on fait plus n'importe quoi, on choisit, et on exprime ou on montre socialement une passion, si possible désintéressée.
Alors comment ça s'est passé concrètement ? Il y a ce petit pactole, le désir de faire une maison d'édition, et puis alors comment on fait après ?
C'est pas vraiment un petit pactole, je vais donner le chiffre parce que ça peut engager des gens qui ont un tout petit peu d'argent devant eux à faire une maison d'édition ou à se livrer à ce genre d'activité. C'était à l'époque 200 000 francs, donc c'est vraiment très peu. Et 200 000 francs, il faut savoir que des livres comme les miens, ça représente 4 livres. C'est tout, hein. C'est pas plus que ça. Donc 2 ans de production. Voilà, mais donc un tout petit pactole comme ça, ça permet tout à fait de se lancer dans l'édition, en sachant qu'on n'y gagnera pas forcément sa vie et que ça va être beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, alors après, bon, on se décide, on va à la bourse du commerce, on prend les papiers, on commence à tout remplir, plein de bonne volonté.
Vous aviez un titre pour cette maison d'édition au départ ?
Je savais surtout que je ne voulais pas de métaphore. Parce que moi, j'appartiens à une génération des gens du métier du livre qui ont vu énormément fleurir de maisons d'édition avec des noms métaphoriques, et j'en avais absolument par-dessus la tête de ça. Par ailleurs, je me disais aussi que cette maison d'édition, c'était vraiment exactement moi, donc je vois pas pourquoi je leur ai donné un autre nom que le mien et un autre prénom que le mien. Voilà, c'est un peu aussi une question, non pas d'orgueil, mais de tenue presque, enfin de oui, puis de rapport aussi au nom, quoi, au nom que je porte. Donc
ça a imposé quelque chose, ce nom là
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que je suis la petite fille de Jean Poulain que je savais énormément de choses sur l'édition ni sur la manière dont on fabriquait les livres, ce qui me semble d'ailleurs un grave défaut familial. J'aurais dû, je trouve ça invraisemblable que ça m'ait échappé, mais quand mon grand-père Poulain est mort, j'avais 12 ans. Même à 12 ans, on ne se rend pas compte de ce genre de choses. La seule chose qu'on voit, c'est arriver des wagons de livres qui se mettent en pile dans tous les endroits possibles. Donc le fait de s'appeler Poulain, oui, ça me faisait une petite contrainte, mais ça me faisait aussi une carte de visite qui est plus facile à retenir, que les gens mémorisent beaucoup plus facilement que quand on... Ça s'appelle, je sais pas moi, les éditions du Tartempion ou du Vistambois, ou voilà, ou un nom métaphorique quelconque. Ça fait image, quoi. C'est la petite fille de Jean Poulain qui publie dans son coin des textes autobiographiques. Voilà, ça se retient relativement facilement d'un public érudit, bien sûr, ou moins cultivé.
Donc il y a les papiers à la Bourse du Commerce, le nom des éditions Poulain, et puis après.
Le genre. Alors. La spécialisation dans l'autobiographie, parce que toute petite déjà, je n'aimais lire que des journaux intimes et que des souvenirs, que des mémoires, que des choses qui enrichissent et qui apportent quelque chose d'un point de vue de l'histoire tout court et de l'histoire littéraire en particulier. Et bien sûr que cette démarche pour moi est très très liée à mon goût pour les archives. Au fait que, alors ça, depuis toute petite, j'avais été voir les archives de mon grand-père, je m'étais ébattue dans les archives, j'avais adoré ça, il y en avait beaucoup, il y en avait absolument partout dans la maison où on habitait, donc j'étais...
Vous avez vécu dans la même maison que lui ?
Oui, rue des Arènes, 5 rue des Arènes, dans une maison qui ressemblait un peu à la maison Huchère, mais au moins une maison où il y avait énormément, énormément de livres et énormément de papiers dans tous les sens, et de photographies anciennes et de traces de l'histoire littéraire. C'était encore une masse de papiers qui débordait tout le monde, qu'on commençait à classer plus ou moins. Chaque année, il y avait une tentative de classement immédiatement abandonnée. Donc on a vu les traces successives, par exemple, dans les archives et les classements des années 60, puis des années... Enfin, après la mort de mon grand-père, etc. Bon.
Michel Butel, écrivain.
Je me souviens de Claire Poulan qui était libraire et puis qui ensuite... Je me souviens de Claire Poulan qui écrivait des articles et puis d'elle qui ensuite a voulu travailler dans l'édition avec une... pas travailler de n'importe quelle façon et dans n'importe quelle disposition d'esprit dans l'édition, certainement, même si... elle ne savait pas encore qu'elle volerait de ses propres ailes, mais certainement avec la seule idée de faire les livres dont elle déciderait seule, et pas de se mettre à la disposition des projets éditoriaux des autres, quoi. Voilà. Et ça a été, enfin, c'est comme d'habitude, le passage à l'acte, il est simplement la ponctuation de quelque chose de silencieux qui a eu lieu dans les années ou dans les mois précédents. Je pense que ça tenait à deux choses différentes. D'une part, deux choses d'ailleurs très justes. La première, c'est que ce qu'elle voulait entreprendre, ce qu'elle voulait faire, et ce qu'elle a fait d'ailleurs, était tout à fait original et n'aurait pas obtenu un vrai concours des structures éditoriales classiques, ou pas longtemps. On lui aurait opposé des raisons... de divers ordres, et on l'aurait contrecarré ses projets. Elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait très longtemps dans une structure quelconque. Et, autre raison, mais c'est lié, elle a dû découvrir de l'intérieur, tout en apprenant, enfin, ce qu'on peut, je sais pas si l'expression est bonne, son métier ou ce métier. Et elle a dû découvrir le fonctionnement, c'est-à-dire, ce qui l'a conduit à faire sa propre maison d'édition, c'est-à-dire le fait que dans les maisons les plus estimables, on fait pas bien son travail, on méprise même toute idée de travail sérieux. Et puis, elle a dû découvrir que son idéal, ça, je crois, elle, si elle le savait pas déjà, c'était certainement pas les rapports de bureau, les relations de bureau et les relations hiérarchiques et voilà, enfin, ce qui fait l'ordinaire de la vie d'une maison d'édition.
Je pense que j'aurais été terriblement déçue et même humiliée presque hein, de travailler dans le monde courant de l'édition contemporaine en France. Et il n'y a même pas quelques maisons d'édition où j'aurais voulu travailler. J'ai fait, moi, Ramsay, Segers et Verdier. Bon, il me manquait probablement d'avoir fait Gallimard. Je crois que je peux me passer de cette étape-là.
Qu'est-ce que ça a été le premier livre ?
Alors, le tout premier que j'ai publié avant de faire ma propre maison d'édition, parce que c'est un livre que j'ai repris, donc qui a pour moi une grosse importance, qui est le journal de Catherine Pozzi, sur lequel j'ai commencé à travailler en 85, que j'ai publié en 87.
Catherine Pozzi, elle avait été publiée par Jean Paulhan.
Oui, elle avait été publiée dans les années 20, dans la NRF, par mon grand-père, oui. Sous un pseudonyme, sous des initiales CK, pour Catherine Karine, qui était le prénom qu'elle s'était choisi. Et tout le monde avait pensé à l'époque que c'était Paul Valéry qui publiait sous pseudonyme. Et comme Paul Valéry était son amant, voilà, ça a fait beaucoup de quiproquos pour Catherine Pozzi, qui a juré à partir de ce moment qu'elle ne laisserait plus rien publier de son vivant.
Vous l'aviez découverte comment, Catherine Pozzi ?
Alors, je l'ai découverte après avoir envoyé un projet de collection à Paul Fournel aux éditions Ramsay, que j'avais choisi tout petit peu intuitivement en me disant « voilà des gens qui ont du succès avec la bicyclette bleue, donc ils doivent avoir de l'argent pour faire des collections ou une collection un peu plus haut de gamme ». Dont les premiers maîtres seraient en tout cas financés par tout l'argent qui rentrait dans cette maison d'édition. Et effectivement, ça a été le cas. Et surtout, c'était une petite maison d'édition avec une dizaine de personnes, donc je me disais que c'était un endroit idéal pour apprendre, que je verrais à peu près tous les services. Donc j'étais intégrée au comité de lecture après avoir fait mes preuves, comme on dit. Et je trouvais ça tout à fait passionnant. Et c'était un lieu d'apprentissage pour moi absolument idéal parce que j'avais des relations avec tout le monde, donc j'allais fouiner partout. Et puis en 87, quand j'ai publié Catherine Pozzi, eh bien, j'ai eu l'occasion de voir comment ça se passait avec le service de presse, de suivre la fabrication auparavant, d'écouter les commentaires des autres personnes du comité de lecture.
Avant ça, il a fallu que vous ayez ce manuscrit. Comment c'est arrivé
entre
vos mains ?
Ah oui, alors ce manuscrit, je crois que c'est une conversation un peu sur le pas de la porte avec Roger Grenier chez Gallimard, qui me demandait ce que je comptais faire, si j'avais des idées, etc. À l'époque, j'étais au chômage.
Ça, c'est quand même la petite fille de Jean Paulhan qui se retrouve chez Gallimard en train de parler avec Roger Grenier, non ?
On pourrait penser ça. Je peux me justifier en disant que Roger Grenier est la seule personne que je connaisse chez Gallimard, que j'ai toujours été là-bas avec une sorte de trouille tétanisée de m'y perdre. Donc, pour dire à quel point je connais mal la maison, d'y rencontrer des gens que j'avais pas envie d'y voir, ou, enfin bon, avec une timidité absolument affolante. Mon Roger Grenier était gentil avec moi, on mangeait de temps en temps ensemble, il prenait de mes nouvelles, mais sans me proposer pour autant, par exemple, de faire cette collection chez Gallimard. Et voilà, il venait de lire le manuscrit du journal de Catherine Pozzi, qui avait été refusé à son grand désarroi, parce que lui, il trouvait ça très bien. Et donc, il m'en a parlé, parce qu'il venait de le lire aussi.
Qui l'avait proposé ?
Claude Bourdet, le fils de Catherine Pozzi.
Qui venait de le retrouver à ce moment-là, ou comment ça s'est passé, la découverte de
ça ? Ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que lui aussi a rencontré Roger Grenier, et qu'ils ont dû parler de Catherine Pozzi, et que Claude Bourdet savait qu'il y avait ce journal-là. On a su par la suite qu'il ne l'avait jamais lu. Donc il avait fait l'imprudence de le proposer tel qu'à Gallimard. Il a dû apporter soit des photocopies, soit le manuscrit lui-même, ce qui n'avait pas été déposé à la Bibliothèque nationale en tout cas. Et voilà, je sais qu'ils l'ont lu, en tout cas sur manuscrit, chez Gallimard. Et puis qu'ils ont trouvé que, voilà, que c'était trop compliqué.
C'est énorme aussi, il faut dire.
C'est énorme comme manuscrit et c'est énorme comme travail. Et ça, chez Gallimard ou chez n'importe quelle autre maison d'édition, ils savent très bien ce que ça représente. Le décryptage, la saisie, l'appareil critique, trouver des photos. C'est très long et très compliqué. Il faut trouver des gens qui travaillent pour rien ou des universitaires, ce qui n'est pas forcément facile à maîtriser.
D'autant que c'est le journal intime de quelqu'un dont on peut dire qu'elle n'est pas extrêmement connue.
Non seulement elle n'était pas connue, mais pour Gallimard, elle posait un problème supplémentaire. C'est que, par rapport à la famille de Paul Valéry, Gallimard aurait, je pense, été dans une situation délicate d'être, eux, l'éditeur de ce journal qui mettait en scène une relation amoureuse très conflictuelle avec Paul Valéry, où il est décrit sous des dehors qui semblent un peu... Moi, il m'a paru extrêmement sympathique la manière dont Catherine Pozzi le décrit, mais je pense que pour les enfants de Paul Valéry, c'était certainement très désagréable de voir ressurgir le personnage de Catherine Pozzi. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont renoncé à le publier, c'est que ça leur a fait des problèmes diplomatiques avec la famille Valéry.
Donc vous avez récupéré ce texte.
Voilà, donc je suis allée le voir à la Bibliothèque nationale avec la recommandation de Claude Bourdet, qui m'a vu arriver sans trop croire que j'aboutirais dans mon projet, qui en même temps a dû me voir arriver avec étonnement. Et moi, je ne savais pas à l'époque que mon grand-père avait publié Catherine Pozzi dans les années 20. Mais lui, il savait.
Mais vous aviez déjà lu ses poèmes ?
À Catherine Pozzi, oui, mais je ne savais rien de sa vie, de son... C'est un nom que je connaissais. J'avais rencontré 2-3 personnes qui étaient capables de me réciter des poèmes de Catherine Pozzi sur le trottoir, comme ça, j'avais trouvé ça tout à fait étonnant. Et puis, il y avait la rumeur de son journal, d'autres poèmes, de sa correspondance avec Paul Valéry, enfin bon, des choses qui donnent envie d'aller voir, en tout cas. Et donc, je suis allée à la Bibliothèque nationale pour consulter le journal lui-même, et pour essayer de me faire une idée. Et là, je suis revenue presque un mois, jour après jour, sans arriver jamais à avoir le journal, le premier cahier du journal de Catherine Pozzi sur ma table. Et j'ai compris, après coup, enfin, assez rapidement quand même, que les excuses qu'on me donnait à chaque fois, le journal est à l'estampillage... On n'a pas toutes les autorisations, il n'est pas disponible, il est en consultation par quelqu'un d'autre, etc. Cacher en fait le même problème que chez Gallimard, c'est qu'il y a aussi les archives de Paul Valéry à la Bibliothèque nationale. Et que tout le monde voyait avec désolation quelqu'un venir s'intéresser au journal de Catherine Pozzi. Voilà. Et en même temps, Claude Bourdet a tapé du poing sur la table, a prévenu qu'il fallait dans les cabinets ministériels. Et un beau jour, j'ai enfin eu le premier journal, le premier cahier du journal de Catherine Pozzi sur ma table. Et là, j'ai commencé à recopier comme une sourde.
Ça vous a plu tout de suite ?
J'ai pas su si ça me plaisait. Je savais pas, parce que j'étais trop le nez dans le guidon. Je voyais cette écriture qui était facile à décrypter, donc je recopiais moi au crayon noir sur mon propre cahier. Et le soir, revenant ici, je racopiais sur un ordinateur. Et je sortais, je faisais une sortie papier pour le comité de lecture de chez Ramsay. Toutes les semaines, je leur donnais 30 pages, 40 pages, 50 pages, en leur disant « moi, je ne sais pas ce que ça vaut ». À la fois parce que je n'avais pas du tout l'expérience, mais aussi parce que recopier un texte, quand on est comme ça, trop près du manuscrit, on est occupé à décrypter les termes. Alors, on se rend bien compte qu'un mot est particulièrement frappant, qu'une scène racontée par l'auteur est tout à fait stupéfiante. Mais c'est la totalité, le mouvement général du journal dont on ne peut pas se rendre compte, honnêtement. Il faut laisser reposer les choses, il faut avoir du temps pour tout lire d'un coup et ne faire que lire. Tout ça, je ne l'avais pas. Et surtout, je n'avais pas la méthode de travail. J'arrivais quand même avec sans méthode et assez empiriquement. Donc, je me fiais au regard des autres. Et le regard des autres, qui étaient Paul Fournel, Sabine Delattre, Catherine Boulègue, au comité de lecture de chez Ramsay, je me rappelle très très bien leur lecture et ils étaient absolument enthousiastes. Et ils me disaient, c'est vraiment génial, continue. Bon, voilà, ça me suffisait comme vademécum, donc je continuais à recopier ça. Ça m'a pris très très longtemps quand même, hein. Ça m'a pris presque une petite année quand même. Et au bout du compte, j'avais donc le texte sur mon ordinateur et j'ai commencé à réaliser l'appareil critique. Et à l'époque, c'était une heureuse époque parce que je ne faisais vraiment que ça.
Vous étiez payé par Ramsay pour faire ça quand même ?
Oui, je participais au comité de lecture, donc j'avais d'autres fonctions. Et j'étais payé très modestement, hein. C'était pas non plus une rente de situation.
Non, mais ça vous permettait de vivre, voilà, et de le faire.
Voilà, ouais. Et de le faire et de passer quasiment tout mon temps ouvrable sur Catherine Pozzi. Et ça, c'est idéal parce que du coup, on peut vraiment s'immerger dans un texte, dans une période, mener toutes les recherches, savoir où on en est et être dans un compagnonnage complet avec un texte, et c'est toujours des textes très lourds, très gros, ces journaux intimes, c'est rarement des textes de 50 pages. On travaille sur une masse de textes qui est de l'ordre du million de signes, au bas mot. Donc après, quand on rajoute l'appareil critique, c'est aussi très compliqué de maîtriser ça. Ça demande vraiment une organisation absolument en béton, ou alors une intuition monstrueuse. Moi, je ne suis pas très intuitive, donc j'essayais d'être très organisée.
Thank you.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne publier que des morts?
D'abord parce que c'est ce que j'aime lire.
Que les morts?
Eh oui. Oui, j'aime beaucoup lire les morts.
Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire,
ben oui,
j'aime plus lire les morts que lire tout court?
Ben oui, enfin, en tout cas, moi, si je veux être sincère, je dis ça. À la fois parce que la lecture, pour moi, est mêlée au travail, et que si je dis travail, je dis apprendre quelque chose, apprentissage, et empilement dans mon esprit, dans ma mémoire, dans mon cerveau, de données, travail utile. Je me refais pas, c'est comme ça. La lecture gratuite est quelque chose que j'ignore assez complètement. Et le plaisir de la lecture gratuite est aussi quelque chose que j'ignore.
C'est quoi la lecture gratuite?
Et ben, une lecture qui ne me serait pas utile dans mes travaux, qui ne viendrait pas s'accrocher d'une manière ou d'une autre à ce que je suis en train de travailler, à essayer de mettre au jour. Donc, ce que je lis en général a à voir avec des recherches que je mène, avec des intérêts que je veux élucider, avec des périodes que j'ai envie de mieux comprendre.
On pourrait dire que c'est une lecture d'historienne plus qu'une oui. lecture d'amoureuse de la littérature en tant que telle.
Oui, on peut dire ça. Je me sens plus historienne que littéraire. Je ne publie que des auteurs morts. Alors, bon, c'est un choix personnel, c'est aussi une manière de fixer un domaine d'édition.
La fréquentation des morts, est-ce qu'elle est plus agréable que celle des vivants?
Bah, pour quelqu'un comme moi, probablement. D'abord parce que donc, je suis très tournée vers le passé, que la vie du passé m'intéresse. Alors bien sûr, c'est certainement un défaut dans la société actuelle, mais c'est comme ça. Pour le travail éditorial, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus simple parce que je n'ai pas l'auteur sur le dos, si j'ose dire, mais plus compliqué parce que j'ai affaire à des ayants droit qui ne sont pas forcément très au fait ou qui, au contraire, savent très bien et peuvent très bien aider. Il y a tout absolument la gamme complète, quoi. Il y a les gens qui s'en foutent et puis ceux qui demandent qu'à aider. Et puis au milieu, on a les gens qui font tout et n'importe quoi dans tous les sens, quoi. Donc il faut gérer les ayants droit, ce qui fait partie du travail et qui est donc une position où il faut plutôt avoir affaire à leurs angoisses au moment de la parution, tout de suite après la parution. Voilà, c'est assez prévisible, en tout cas les rapports avec les ayants droit. Moi j'ai toujours cette image de sortir les écrivains qui n'étaient pas complètement morts non plus, ni complètement oubliés, il y avait encore une petite lumière faible. Mais l'image de sortir de la tombe, de sortir du cimetière, je dis toujours moi que je suis quelqu'un qui hante les cimetières, et qui, en tout cas de la littérature, et que j'aime bien ça, que je trouve que c'est une belle activité, et puis on n'est pas très nombreux dans les cimetières, donc c'est très bien. C'est pour moi une sorte d'image extrêmement automnale, très sérieuse, très grave, et en même temps, alors pour le coup, très affective et très sentimentale. N'oublions pas les morts.
C'est pas une trahison.
Je pourrais ressentir une sorte d'indélicatesse de ma part si, par exemple, la personne dont j'édite le journal était morte brutalement, sans avoir eu le temps de se voir mourir. Moi, c'est le gros distinguo que je fais. Hein. Les écrivains qui laissent derrière eux, en ayant le temps de se voir mourir, des archives, des papiers, des correspondances, quel que soit leur niveau d'intimité, c'est qu'ils avaient peut-être, en tout cas on peut jouer de cette ambiguïté-là, l'envie que quelqu'un les classe, les archive, les lise, les fasse lire après leur mort. C'est ceux qui sont morts brutalement, comme Camus, comme Jean Follin, alors qu'ils pensaient qu'ils avaient encore des années devant eux, pour classer leurs papiers, entre autres, faire de l'ordre. Ceux-là, oui, alors là, c'est beaucoup plus discutable de publier les inédits qu'ils laissent, ça c'est sûr.
Ça compte pour vous, le désir qu'ont eu les gens que leur travail soit publié ou non?
Ma position par rapport à ce désir? Oui, bien sûr, ça compte, mais moi, à partir du moment où je trouve le manuscrit d'un journal intime, parce que j'édite pas de journaux intimes ou de correspondances et je ne vois pas le manuscrit, À partir du moment où je l'ai là sous les yeux, j'aurais du mal à y renoncer, si je le trouve beau, pour la raison que l'auteur a peut-être pas voulu qu'on le laisse publier. Encore une fois, pour moi, le seul critère possible, c'est si on est mort en ayant le temps de se voir vieillir ou pas.
Est-ce que vous avez eu parfois le sentiment d'être indiscrète en ouvrant des archives qui vous étaient pas du tout destinées, finalement ?
Eh bien non, je ne me sens jamais indiscrète. Je ne me sens jamais indiscrète pour deux raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup de mal à faire une frontière entre la vie publique et la vie privée, du fait que je m'intéresse depuis toujours à la vie privée, et à l'histoire, et à l'histoire littéraire, et à la vie privée des gens, donc à ce que révèlent les archives. Et par ailleurs, parce que le côté indiscrétion ne m'effleure pas et fait partie de ma curiosité, je dois le reconnaître, pour les journaux intimes.
Moi, pourtant, on peut entrer dans le bureau de quelqu'un qui est mort et regarder ses papiers, on n'entrerait pas regarder les papiers de quelqu'un qui est vivant.
Ah non, ça je le ferai pas.
C'est la mort qui permet d'aller regarder.
C'est la mort depuis un certain temps. Professionnellement à l'IMEC où je classe des archives, je suis archiviste à l'IMEC par ailleurs, il m'arrive assez rapidement après la mort des gens de regarder leurs papiers. Mais j'essaye de le faire toujours avec une grande discrétion et là en ayant un grand respect de la vie privée des gens et oui, en essayant de pas être indiscrète, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où les gens sont morts depuis longtemps, alors depuis quand peut-on dire qu'il y a une... Là, c'est le côté enquête qui prime, c'est le côté vouloir faire émerger une œuvre dans les meilleures conditions possibles, avec tous les appuis, toutes les explications. Et ça, je trouve que c'est un but noble, donc je me sens pas indiscrète de faire ça. Et par ailleurs, si j'ai accès à ces papiers-là, c'est que si tout le monde m'y a autorisé et que je suis la seule ou presque la seule à vouloir le faire. Donc voilà, ça fait une double autorisation d'une certaine manière. Non, donc je ne ressens pas d'indiscrétion. Et puis il suffit aussi d'avoir une position morale par rapport à tous ces papiers, par rapport à la vie privée de ces gens.
Alors pour ce qui concerne Claire Paulhan, ben c'est publiant des morts, elle publie le mort. Et publiant le mort, elle, par excellence, c'est son grand-père. Elle est l'éditrice de celui qui a été, d'une certaine façon, encore que ce soit pas absolument la vérité, mais enfin a été son propre éditeur. En tout cas, a été la figure de l'éditeur. Et je crois que toute personne qui s'intéresse sérieusement à la littérature du XXe siècle et à l'histoire de l'édition au XXe siècle considère que le plus grand éditeur, c'est Jean Paulhan. Il a travaillé pour la plus grande, qui fut pendant un temps peut-être même la seule maison d'édition française. L'éditer lui, ce grand éditeur, son propre grand-père, ça n'a pas été possible à cause des dates, et encore à quelque chose près, puisque à cause de sa très grande longévité à lui. Mais enfin bon. Et voilà, elle a pu l'entreprendre. Je ne dis pas ça au sens d'éditer, au sens de publier la correspondance, qu'elle fait d'ailleurs, publier des textes de lui, ce qu'elle fait aussi. Éditer, c'est donner vie à un texte qui, même s'il existait, n'était pas doué de cette vie qu'on lui insuffle. Donc je crois que c'est, pour ce qui concerne Claire Paulhan, c'est faire revivre un mort, puis ensuite, par fidélité à cela, à ce contrat-là, à ce pacte-là, faire revivre des morts. Et Elle choisit de le faire par la voix du journal ou des écrits autobiographiques ou des correspondances. Mais là aussi, c'est bizarrement par un travail lié à la mort, un pacte de vie. Parce que d'une part, ces textes qu'elle publie sont inédits, donc elle les fait accéder à la librairie et elle les fait parvenir à leurs lecteurs, mais aussi parce que la littérature est mise en tombe, quoi, mise en bière par elle-même, sans cesse. Elle est sans cesse transformée en une sorte de corps mort. Elle l'est aussi d'ailleurs par l'appareil culturel, elle l'est aussi par l'appareil d'éducation, de transmission du savoir, etc. Donc, toutes ces personnes qui ont écrit des chefs-d'œuvre, on sait bien qu'elles tendent à disparaître, leur présence physique tend à s'effacer, et ne reste que les textes, ce qui est tout à fait louable, ce qui est peut-être la vérité de l'art, mais il y a une souffrance qui est close, et la disparition est toujours un crime, la disparition d'une personne, mais la disparition de l'auteur d'une œuvre d'art, d'un texte, est toujours un crime. Et par exemple, si on peut faire revenir à la vie par sa correspondance ou par des notes, des fragments, des petits textes laissés de ci, de là, abandonnés, ou par des textes qui n'ont jamais connu la fortune de la parution du temps du vivant de l'auteur, si on peut faire revenir à la vie la figure de l'un ou de l'autre, je pense que c'est un devoir. En tout cas, c'est la tâche qu'elle s'est assignée, il me semble. Alors, ça pourrait être, dans d'autres domaines, montrer que Léonard de Vinci a été un jeune homme, ou que Michel-Ange a été enfant, ou que Beethoven l'a été. Mais là, à propos de la littérature qu'elle a décidé de célébrer, c'est encore plus récent, encore plus proche, encore plus physiquement disparu depuis peu, quoi. Ce sont de Valérie Larbaud à Mireille Havet, de Gide à François Mauriac, des gens qu'on croit encore pouvoir toucher de la main quand on les lit, et pourtant tout ce qui les a constitués s'effondre en cendres et on n'arrive pas à les saisir. Or, publier leur journal ou leurs écrits autobiographiques, leurs correspondances, ça ressuscite un peu de ce qui fut leur présence et ça la ressuscite de façon noble. C'est pas un travail d'idolâtrie, c'est pas un travail de transgression, de révélation de secrets abominables, etc., de confidences dont on disposerait à leur insu, pas du tout. Il y a aussi ça qui compte, c'est que ce qui paraît d'eux et qui n'avait pas encore paru, j'insiste là-dessus, est d'une aussi grande noblesse que ce qu'ils ont pu voir paraître de leur vivant et qui a constitué, jusqu'à plus ample à informer, leur œuvre, leur corpus, comme on dit. Ça n'est pas faire revenir par le scandale de la révélation posthume ou par une indiscrétion abominable. C'est faire revenir par la véritable admiration, par le travail d'admiration dont une personne que je vénérais par-dessus tout, Gilles Deleuze, disait que c'était ce qu'il y avait de plus beau au monde, admirer. Je trouve que les éditions Clairpollan, c'est la tâche, sinon que leur a assignée leur fondatrice et leur animatrice, mais c'est ce qui émane de ces éditions, c'est une tâche d'admiration.
Vous avez inventé vous-même les couvertures très belles de ces livres.
Oh, j'ai rien inventé, j'ai simplement d'abord je vois pas bien, donc moi j'ai besoin d'avoir des gros caractères en face de moi et je peste contre les livres qui sont imprimées en tout petit et dont les couvertures sont imprimées en tout petit, y compris les dos. Par ailleurs, j'aime beaucoup les typographies en règle générale, les cases de caractères. Et j'aime bien la manière dont on imprimait les premiers livres, avec par exemple le rappel de la dernière syllabe sur la page suivante. Ça a une vérité historique, c'est que les livres étaient imprimés en planche, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Mais que la dernière syllabe étant rappelée sur la page suivante, au moment du massicotage, on ne risquait pas de mettre de pages qui ne se suivent pas, par exemple. J'aime beaucoup aussi les effets typographiques en triangle pour les couvertures, en bloc, les mots qui sont coupés de manière un peu irrespectueuse, comme on faisait autrefois à l'époque de la Renaissance. Il y avait vraiment des règles typographiques qui étaient beaucoup plus larges d'esprit que maintenant. Voilà, j'aime bien jouer un petit peu avec ça.
C'est presque l'égal, alors je ne sais pas par quel miracle, mais c'est presque l'égal pour moi de ce qu'a pu faire Massin dans le domaine des couvertures de livres ou ce qu'ont fait de très grands graphistes. C'est aussi là, ce sont des livres qui, vers lesquels le regard va aussitôt qu'il s'attarde sur une bibliothèque. Et ils ont quelque chose en plus par la typographie d'impérieux, ce que je trouve aussi juste. C'est-à-dire, c'est, voilà, on affirme. Ici écrit Jean Paulhan ou François Mauriac ou Mireille Havet. Ici, ce sont les éditions Claire Paulhan. Ça, je trouve ça vraiment précieux.
Je ne suis pas non plus d'une audace fantastique et... Ce que je souhaite, et ça je pense que c'est à peu près réussi, c'est que les couvertures de ma maison d'édition soient identifiées comme telles et que l'ensemble fasse un patchwork de couleurs, parce que la couleur est quelque chose d'important pour moi. Tout de suite, quand on voit une couverture, sans même voir le nom de l'éditeur, on sait que c'est moi qui les ai publiées. Et les uns par rapport aux autres, ils sont aussi assez beaux ensemble.
Vous aviez cette idée, au premier livre publié, oui, qu'il y aurait ces différences de couleurs et en même temps ce jeu typographique sur...
Oui, ça doit être le fruit de longues réflexions dans le train ou des moments perdus, mais la couleur, c'était sûr. À la fois parce que j'aime, moi, les papiers teintés dans la masse, les papiers vergers ou faux vergers, mais assimilés. J'aime donc beaucoup les couleurs. Je regrette qu'on ne trouve pas plus de couleurs disponibles dans le grammage qui m'est nécessaire actuellement dans les catalogues de papetiers qui, comme partout, subissent la loi des regroupements. Donc, il y a de moins en moins de choix. On choisit un papier et 6 mois après, il n'est plus disponible. Donc... Avec Edmond Thomas, au moment où on choisit le papier pour mes bouquins, on a vraiment parfois du mal à trouver un papier qui aille avec les autres.
Là, elle va être malheureuse parce que les papiers sympas disparaissent de plus en plus des catalogues parce que les industriels trouvent que les papiers en fait qui faisaient leur prestige il y a encore quelques années, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est de faire du fric et ils préfèrent vendre 100 tonnes de couchers brillants que de vendre des papiers genre papier à dessin, canson et autres. Ça les intéresse plus, ils les suppriment des catalogues. Les papiers sympas, c'est des papiers comme ça, comme les papiers colorés qu'utilise Claire, qui sont des papiers, je dirais, avec une petite dimension artistique, avec une texture particulière, avec un grain, enfin bon, qui sont pas des trucs plats, qui sont pas destinés à être pelliculés, etc.
C'est toujours le même papier ?
Alors l'intérieur, c'est toujours le même qu'elle utilise. C'est un offset ivoire qui s'appelle Senteur Ivoire, qui est fabriqué par les papeteries de Rive, qui était une boîte prestigieuse autrefois, un peu comme Arche. Vous savez, vous avez entendu parler du vélin d'Arche. Bon, ben Rive, c'était un peu le pendant de Arche. Et aujourd'hui, bon, ben ils font encore ce papier-là, mais ils ont supprimé des tas de papiers. Ou alors ils font des gammes différentes, mais avec les mêmes teintes, ce qui fait qu'on n'a plus de choix, quoi. Les papiers peuvent avoir une texture différente, mais plus des teintes différentes, c'est-à-dire que d'une gamme à l'autre, vous allez avoir exactement la même déclinaison de couleurs, ce qui n'a pas de sens. Mais bon, c'est comme ça, quoi, c'est l'industrie. Puis alors, si vous en parlez aux représentants, ils vous disent, ah bah oui, mais ça se vend pas. Hein, évidemment, ils veulent vendre à la tonne. Alors, quand vous avez besoin pour un bouquin comme ça de 300 feuilles, ça les intéresse plus. Alors que c'est ce qu'a fait leur réputation.
Vous avez choisi pour faire ces livres un imprimeur.
Un bon imprimeur, qui a un peu la réputation d'être un imprimeur exigeant et ronchon, ce qu'il est. Mais c'est vraiment quelqu'un de délicieux, qui sait énormément de choses, qui a un savoir protéiforme, qui a lui-même une maison d'édition qui est absolument exemplaire pour moi, et qui a le mérite de savoir dialoguer avec les personnes qu'il sent intéressées sur la forme d'un texte. Le contenu, il n'intervient jamais, il dit jamais. Peut-être après coup, il me dit de temps en temps, c'était intéressant, ça m'a intéressé de lire tel et tel livre. Mais quand j'arrive avec mon texte, il ne me dit pas, oh là là, pourquoi vous publiez tel livre? Heureusement d'ailleurs. Mais il m'aide à faire les maquettes de couverture, il intervient d'un point de vue technique et esthétique, et il soutient mes démarches qui sont pas très audacieuses non plus, mais qui sont relativement attentives sur la présentation des textes. Il me dit ça, c'est intéressant, ça, il faudrait faire un interlignage un peu plus important pour aérer le texte. Il faut le regarder dans le miroir pour voir s'il n'y a pas des lignes de fracture de blanc. Enfin. Et c'est quelqu'un de merveilleux parce qu'il a une conversation érudite sur l'imprimerie et la typographie qui m'apprend un savoir qui est en train de se perdre complètement. Et qu'en même temps, lui a acquis un savoir informatique et qu'il est aussi extrêmement habile là-dessus.
En fait, je l'ai connu aux éditions des Cendres à Paris. Dont j'imprimais les bouquins à l'époque. Et puis, sans doute que les bouquins que je faisais pour les éditions des Cendres lui ont plu. Un jour, elle m'a contacté pour me demander si je ferais ses livres. C'est quelque chose comme ça. Et puis, elle m'a demandé une sorte de rendez-vous pour qu'on puisse voir comment elle pourrait faire ses livres. Et elle est venue pour qu'on parle des papiers, de la mise en page, des caractères, du brochage. Et puis, elle avait cette idée de faire cette jaquette avec des rabatteries latéraux, là, bon, qui est un truc peu usité dans le commerce. Aujourd'hui, sans doute pour des problèmes de fabrication et de coût, parce que ça a son prix. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est... Alors elle est venue, on a passé une journée à faire une maquette, ce qu'on appelle une maquette en blanc, c'est-à-dire de prendre du papier, de le plier, pour faire un livre de l'épaisseur de ce que serait son livre. C'était même pas du papier blanc d'ailleurs, c'était du papier déjà imprimé que j'ai récupéré pour faire un faux livre, quoi. Mais un faux livre qui aurait le volume du sien, du premier qu'elle projetait, je ne sais plus lequel c'était, c'était Grenier peut-être, non ? Sous l'occupation.
Vous avez fait le choix que ce soit des livres très beaux, sur du beau papier, faits par un imprimeur exigeant en effet. C'est aussi des livres assez chers.
Oui, ils sont assez chers, malheureusement. Je suis la première à le regretter. En même temps, ils ne sont pas très chers. Si on les compare avec un livre de 80 pages qui sort chez X éditeur et qu'on vend déjà 10 euros... Si on fait comparativement, si on rapporte au nombre de pages ou au nombre de signes, ce qui serait plus honnête, le prix, au contraire, mes livres ne sont pas chers du tout. Mais ce qui est compliqué, c'est de sortir une somme pareille pour un livre. Il faut être bien sûr de son achat quand on va acheter un des livres que je fais. Sinon, effectivement, on peut regretter d'avoir mis 27 euros dans un tel livre, mais... Bon, le problème, c'est que le public n'est pas éduqué à savoir à quoi correspond le prix du livre. Et ça, c'est un peu dommage. Viviane Amy avait publié, je crois, dans Le Monde, il y a quelques années, un texte assez polémique qui expliquait comment fixer le prix des livres et pourquoi ces livres valaient ce prix-là. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça mettait devant les yeux de tout le monde les règles qui nous permettent de calculer le prix des livres.
Qui sont ?
Oh, c'est des règles assez complexes à expliquer, mais il faut tenir compte du nombre d'exemplaires qu'on tire, du nombre de signes, du nombre de reproductions, de difficultés techniques qu'on demande à l'imprimeur, de son devis, bien sûr, du devis du brocheur, de ce qu'on espère mettre en vente, de ce qu'on espère gagner dans le temps où on doit payer la facture de l'imprimeur. C'est toute une série de calculs, là aussi c'est très précis. Alors au bout d'un certain temps, la pratique aidant, on fixe ça à la louche complètement, et je pense que si on faisait les calculs, on retomberait sur les mêmes prix, ou la même fourchette de prix. On fixe aussi les prix par rapport aux autres livres, par rapport aux autres livres du même catalogue, mais par rapport aussi au reste de la production. Mais c'est important de calculer un point mort, c'est-à-dire le moment où on rembourse le prix qu'on a effectivement payé à l'imprimeur et au brocheur, et donc on ne compte pas du tout dans ce prix-là le prix de travail de l'annotateur, de l'éditeur, de la personne qui met en page, etc. Donc il y a une grosse partie du travail qui est dite gratuite. Et l'autre partie, on essaye qu'elle soit la moins coûteuse possible, ou au moins qu'elle soit remboursée assez rapidement. C'est une règle de la gestion saine d'une maison d'édition.
Elle était très déterminée quand elle est venue.
Je crois, oui.
Elle savait tout de suite ce qu'elle voulait.
Non, elle en avait une idée très large. Bon, peut-être qu'on l'a mise au point, moi je me souviens pas de tout, mais elle savait quand même ce qu'elle voulait, elle avait des idées sur tout ça, et puis bon, dès le premier, si c'est le grenier, on voit qu'elle avait déjà adopté le principe même de toutes ses couvertures ensuite. Aujourd'hui où tout le monde essaye de faire des couvertures qui pètent en quadrichromie, elle utilise simplement du noir, et elle a un résultat qui fait que les gens cliquent dessus quand ils voient ça dans une librairie. Elle coupe beaucoup plus hardiment qu'elle coupait au début, elle essayait de faire des coupes presque phonétiques ou comment dire, syllabiques, alors que maintenant, elle coupera volontiers au milieu d'un mot, quoi, au milieu d'une syllabe ou quelque chose. Enfin, faudrait chercher, mais corresponde ans, c'est clair, quoi. Sur le dernier, c'est clair, si j'ose dire. Hein, Paul et Loire, je crois pas qu'elle l'aurait fait au début. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve ça rigolo.
Ça, c'est les derniers titres.
Éloire, c'est le dernier, oui.
On va voir les machines.
Oui.
Ça y est, là, déjà, on sent l'encre.
Alors, quand Catherine a fait le montage, je récupère les films. Là, vous en voyez une pile.
Hein. Tout ce qui est sur les palettes, là, c'est du papier.
Oui, tout ça. Là, le gros, la grosse pile, là, c'est ce que je dois imprimer cette semaine.
Vous savez exactement quel papier il y a dans les...
Non, je ne me rappelle pas de tout, mais bon, ils sont classés. Tout ça, c'est des fonds de rame, c'est-à-dire des restes de couverture. Pour beaucoup de papiers qui n'existent plus et que je ne peux pas réappareiller, quoi. Donc je les garde pour moi, pour faire des essais, pour démarrer des tirages.
C'est la photographie de qui est là?
Ça, c'est Pierre Bouju, le patron de la Tour de Feu, la revue Jarnacaise, qui a fait cette revue pendant une cinquantaine d'années à Jarnac, et à laquelle participait... des gens que j'aimais beaucoup, quoi, qui étaient tous des bons poètes et des types sympathiques, de tendance libertaire. Et où venait Follin, qui était peut-être pas de tendance libertaire tout à fait, mais il a participé souvent à la Tour de Feu et aux réunions de la Tour de Feu. À Paris, il y allait régulièrement, et à Jarnac, il venait de temps en temps.
Comment vous pourriez décrire cette pièce?
Ah, il y en a qui m'ont dit c'est une cathédrale, d'autres... Non, c'est un grand atelier, quoi, bon, que j'aurais voulu aménager plus que ça et qui est resté en l'état.
C'est un travail très artisanal, quand même.
Bah oui, enfin, il y a beaucoup d'opérations manuelles. Donc, quand le film arrive, soit du client, il est monté donc par Catherine, et ensuite, on fait des plaques. Voilà, c'est des plaques en aluminium. Là, elles sont revêtues d'une couche photosensible. Et en dessous, l'aluminium n'est pas lisse comme ça. Il est dépoli par procédé chimique. Hein, micro-grainé, ça s'appelle. C'est-à-dire rendu dépoli, en quelque sorte, avec des millions de petits trous minuscules qui vont lui donner une propriété hydrophile. Quoi. Hein. Donc, la plaque, elle se met sur le châssis. Voilà un film monté avec 16 pages. Hein. Donc on met pile au bord de la plaque. Alors il y a des systèmes de tétonnage avec des trous, des machins, bon moi j'ai pas tout ça, qui permettent d'être plus précis, mais bon, on l'est suffisamment comme ça. Ensuite, on fait le vide sous la vitre avec une pompe à vide pour que le film adhère parfaitement à la plaque. Parce que s'il adhérait pas parfaitement, la lumière passerait sous la couche et boufferait l'image. Hein? Alors là-dedans, il y a une lampe à rayon ultraviolet qui fait 5000 watts.
Il ne faut pas regarder alors.
Mais il vaut mieux pas. Il devrait y avoir un petit rideau noir autour. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis préhistorique. Donc, voilà. Il faut que la lumière fasse son plein là-dedans. Et puis que le vide soit complet aussi sur les films. Alors ça, je le vois parce que j'ai l'habitude. Quand ça fait un petit talus tout autour, bon, vous le voyez là. Hein, on voit bien qu'ils sont appliqués. Donc là, la lumière ne passera pas dessous. Enfin, peut-être qu'elle y passerait si on le laissait une heure. Hein. Je vais installer ça moins de 2 minutes. 1 minute 45 secondes. Et puis, ensuite, je pourrai la révéler. Alors, attention à la lumière, là. C'est pas la peine de la... Non, c'est pas au point de... Hein. Mais bon... qui refroidit. Tu sais, je fais des livres à l'ancienne, quoi. Je fais des livres à l'ancienne, entre guillemets. Tout le monde fait des trucs à l'ancienne aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas acheter un fromage sans qu'il ait été fait à la louche, etc. Bon. Ou au coin du feu, ou au feu de bois. Donc, je ne vais pas faire le même truc. Le procédé offset, c'est quand même un procédé industriel, et avec des produits chimiques. Mais on essaye d'avoir un rendu qui est le rendu des livres traditionnels, comme finalement, je disais qu'on avait atteint des sommets au 19e siècle. Ces gens-là, dans les années 1860, ces gens-là sont pour moi des modèles. Quoi. C'est... Notamment à la fois dans l'esthétique et dans le rendu. Alors évidemment, on ne peut pas avoir en offset un rendu comme on a en typographie. Mais bon, je fais pas mal de reprint aussi, c'est-à-dire de reproduction de livres... d'après des tirages anciens, et je me base beaucoup sur les livres du 19e siècle, parce que justement, ils arrivent à une qualité d'impression qui permet de les reproduire assez fidèlement. Alors que si vous prenez un livre du 18e qui a tout le charme que lui confère le temps passé, quand vous le lisez, si vous essayez de le reproduire, c'est dégueulasse. Vous avez des caractères bouffés. Il n'y a pas de nuance dans l'impression comme il peut y avoir un petit halo autour des caractères. Enfin, on a l'impression que c'est en couleur quand on regarde un bouquin ancien. Alors que quand on le reproduit sur du papier blanc, ça devient tragique, quoi. C'est moche. Et bon, il n'y a pas de doute que le temps qui passe confère aux choses une patine qu'on peut pas inventer là. C'est même alors sauf à reproduire tout ça en quadrichromie où évidemment on peut arriver à repiquer tout ce qui est défaut d'impression, taches dans le papier, taches de rouille, transparence et tout ça. Le problème, c'est que c'est 4 fois plus cher que de le faire en monocouleur. Donc, moi, je ne vais pas faire des reprints dans quadrichromie. Vous savez, il y a eu des bouquins ces dernières années sur les manuscrits des écrivains, sur les plus beaux livres que l'imprimerie avait produit depuis Gutenberg, etc. Alors, quand vous ouvrez ces bouquins-là, vous avez les pages des livres presque comme si vous aviez l'original. Des fois, quelquefois mieux, parce qu'ils retravaillent quand même un peu leurs clichés. Bon, et par contre, pour obtenir ça sur un livre de 400 pages, c'est pour tirer ça à 200 exemplaires, c'est pas faisable. Mais je crois qu'on obtient des résultats assez satisfaisants, justement, en partant sur des bouquins du 19e. Et en utilisant des papiers qui ont encore un aspect de papier comme on en faisait à cette époque-là, c'est-à-dire des papiers vergers, des papiers teintés, et quelquefois même des papiers un peu vieux. J'avais réussi il y a quelques années à trouver un stock de vieux papiers qui dataient sans doute des années 1920-1930. Et j'ai imprimé dessus des livres de la fin du 19e. Bon, je ne dirais pas que c'était à s'y méprendre, mais c'était assez proche, quoi. Notamment le fameux catalogue des arts incohérents.
Quand la machine tourne, la plaque qui a été installée ici, là, sur un cylindre, je l'ai calée tout à l'heure. Vous voyez, elle est prise dans une pince. Et puis voilà, bon, elle est là. Alors, elle va toucher le... Alors comme on n'a pas roulé depuis un moment, là, je vais remettre un peu d'eau à la main. Voilà. Ensuite, la transmission sera automatique. Grâce au fait que, vous voyez, quand il s'arrête, c'est qu'il prend de l'eau et puis il l'emmène sur les autres là-bas. Bon, c'est... Alors il y a le même système pour l'encre. On met l'encre sur toute cette batterie. Il y a beaucoup de rouleaux parce que c'est pour la broyer finement quand elle arrive sur le papier qui n'est pas des grumeaux, des épaisseurs importantes. L'encre est quasiment mise sous forme d'un film léger et elle est prise par la plaque aux endroits qui ne sont pas mouillés, c'est-à-dire ceux où il y a la couche sensible. Donc là, je vais commencer à passer quelques feuilles pour mettre au point mon réglage, ce que j'appelle le repérage, c'est-à-dire le fait que les couleurs se superposent parfaitement pour former l'image finale, quoi.
Donc, même avec des textes en noir et blanc, vous mettez du rouge, du jaune et du...
Ah bah non.
Ah bon.
Je n'avais que du noir. Black is black.
Ça, c'est pour la flotte. Il en manque un peu. Enfin bref. Oui, non, bon, voilà. Alors, c'est comme ça que des gens comme Claire Poulan et d'autres sont venus nous voir, quoi. On fait des livres pour des gens qui veulent encore faire des livres qui ressemblent à des livres, non pas d'autrefois, mais à des livres.
J'essaie de faire en sorte que ça soit rendu. Mais en tout cas, c'est là où j'ai mon stock prêt à être vendu, si j'ose dire, avec les livres couverts. Et si on les voit là comme ils m'arrivent, blancs complètement, comme ça,
ouais, c'est plastique.
Là, j'ai toute une accumulation de couvertures de couleurs. Je trouve ça très beau, comme ça, quand on voit que la tranche. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rabats que je rabats autour du bloc livre.
À la main. Tous.
À la main, tous.
Tous les livres des éditions Claire Poulan ont
été rabattus. Sauf le Mireille Havet. Ouais. Voilà.
Il a été rabattu par qui ?
Ben, il n'est pas rabattu, mais il se présente sans rabat. Enfin, il a des rabats, mais il n'y a pas besoin de le recouvrir. Il est d'une forme un peu différente des autres. Voilà.
Ça, c'est les archives.
Oh, ça, c'est les factures. Oui. Qui prennent énormément de place. Les archives sont là-bas en dessous. Voilà. Et quelques maximes. C'était une gravure d'un pain. Et la maxime était en latin, et ça voulait dire « je pousse vers le haut ». Voilà, et attention, et au-dessus, il y a encore mon bureau à moi. Extrêmement encombré et avec tous les textes en cours.
Ça, c'est le bureau où vous travaillez.
Oui. Il faut savoir que les textes en cours, ça prend énormément de place, quoi.
vraiment, c'est...
On peut les énumérer, les textes en cours ?
Oui, la correspondance Perros-Polan, que je vais sortir bientôt, qui est presque entièrement faite.
Donc c'est comme un énorme carton, c'est dans une boîte en plastique.
Oui, c'est... et il y a dedans à la fois tout le courrier que j'ai eu avec les personnes qui s'occupent de cette édition, la première version, les photocopies des originaux, enfin tout ce qui concerne l'édition. En dessous, on a Félix Fénéon. Ça, c'est un vieux projet que j'ai de publier sa correspondance avec mon grand-père, qui est tout à fait drôle et allusive. Là, on a Marc Bernard, c'est aussi la correspondance avec Jean Paulhan. La Thomas, pour le journal d'Henri Thomas. Mireille avait ses trois casiers, plus dessus, ça commence à s'empiler. Tout ce que je récolte à la fois comme information, comme documents et comme dossier que je dois garder. Georges Navel, dont je vais publier des lettres. Et là, j'arrive même pas à lire. Ah, Porcros. Je vais faire un petit volume sur Porcros.
Et voilà. Alors, vous travaillez avec les portraits tutélaires de qui ?
Alors, ça, c'est un dessin de mon grand-père qui représente son ami Albert Hurier pendant la guerre, Première Guerre mondiale. Ça c'est une petite encre de Fautrier. Ça c'est un dessin de Braque. Ça c'est la maison carrée à Nîmes parce que c'est ma ville quasi natale. Ça c'est le portrait de Félix Fénéon par Cross, un peintre contemporain. Ça c'est la photographie de Félix Fénéon. Ça c'est
avec un chapeau haute forme et une cape.
Ça, c'est une pierre des arènes de Nîmes. On ne devrait pas dire ce genre de choses. Oui. Ça, c'est une tête de poupée qui était dans le bureau de mon grand-père. Et quand j'étais petite, je voulais toujours jouer avec ça.
Elle est très belle.
Ah oui, elle est belle. Ouais. Ça, c'est un texte de mon grand-père. C'est une carte postale imprimée de Shakespeare. La vie est une pièce composée par des fous et jouée par des acteurs ivres. Et que mon grand-père a modifié, jouée par des ivrognes. D'ailleurs, ça n'est pas vrai. Oui, c'est un peu tout mes gris-gris. Ça, c'est une pelote de laine qu'avait la femme de Paul Desjardins qui a fait les décades de Pontigny. Parce que comme ils n'avaient pas assez d'argent, elle tricotait pendant les décades des pulls qu'elle vendait sous le nom de Lily Ravasse. Et on a trouvé dans le village de Pontigny même quelqu'un qui avait encore une pelote de laine parce qu'il cousait pour elle.
Et la photographie, c'est qui ?
C'est encore Félix Fénéon, oui. Et ça, c'est un portrait, je pense, de mon arrière-grand-père, Frédéric Paulhan. Je ne suis pas bien sûre.
Il était dans le bureau de Jean Paulhan aussi ?
Non, on ne sait pas trop où il était. Il devait être dans le grenier de la rue des Arènes.
C'est quand même pas mal sous le signe de Jean Paulhan. Hein.
Bah, bien sûr.
Oui.
Et oui, je dois le reconnaître.
Le premier livre qui est sorti sous le label des éditions Claire Paulhan, qui n'avait pas été publié auparavant, qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est un livre qui s'appelle « Sous l'occupation » de Jean Grenier. C'est un livre, un texte dont la veuve de Jean Grenier, que j'aimais beaucoup, Marie Grenier, m'avait parlé du temps où j'éditais avec elle les carnets de son mari. Carnet de Jean Grenier que j'ai publié chez Segers. Et tous les samedis, j'allais chez elle à Bourg-la-Reine. J'en ai de très bons souvenirs. Et je lui lisais à voix haute le texte des carnets de son mari. Et elle m'interrompait pour me dire « Ah, un tel, on l'a connu dans telle circonstance. » Alors, elle était moins privilégiée et témoin assez neutre, aussi incroyable que ça puisse paraître, assez objectif. Et puis surtout, elle était délicieuse et il y avait toute une ménagerie d'animaux autour de nous, un chat qui passait sur les papiers, un chien qui venait poser sa tête sur ma cuisse, on prenait le thé le soir. Enfin bon, tout était extrêmement agréable, et surtout c'était une vieille dame absolument charmante, comme je les aime beaucoup. Donc elle m'avait dit un jour, et je l'avais noté dans un coin, « Ah tiens, mon mari, pendant l'occupation, il notait tout ce qu'il entendait, au jour le jour, de manière quasi scientifique, neutre. » Et en prévenant les gens qui notaient, qu'il était en train de noter et qu'il noterait leurs conversations. Et ça pouvait être toutes sortes de personnes, des personnes du milieu littéraire, mais ça pouvait être aussi des professeurs, des gens rencontrés dans le train, un démobilisé ou son épicier à Simiane ou la femme de ménage à Bourg-la-Reine, enfin tout le monde. Il notait. Et il notait avec l'idée qu'il ramasserait ces textes-là par catégorie sociale et qu'il en ferait une sorte de témoignage brut après la guerre. Et après la guerre, lui, il est parti au Moyen-Orient, à Alexandrie, et il n'a pas eu le temps. Et je pense qu'il a senti que l'heure n'était plus, éditorialement parlant, au témoignage sur la guerre, que les gens voulaient tourner la page, les éditeurs comme le public. Et puis il était loin de Paris, et donc il a commencé à ramasser ces témoignages, qui sont donc comme des fragments de journaux. Il a commencé à les ramasser par catégorie sociale, l'administration, l'université, la NRF, et puis il a renoncé à le faire. Voilà. Et c'est ce texte-là qui était déposé à la Bibliothèque nationale, dans le fond Jean Grenier, que je suis allée voir. Donc j'ai vu le dactylogramme qu'il avait établi lui-même, corrigé lui-même, et ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, c'est pas un document philosophique, c'est pas un texte philosophique, surtout pas, c'est pas un texte littéraire comme ce que j'avais publié auparavant de Grenier, mais c'est un document brut de décoffrage sur ce que les gens savaient dans telle et telle catégorie sociale, à tel et tel moment, qui est tout à fait incroyable. Voilà. Et ce texte-là, je l'ai publié en début 97. J'avais tiré à 800 exemplaires parce que j'étais modeste et craintive, et il a fallu, dès la sortie, que je réimprime tout de suite à 800 exemplaires.
Les écrivains que vous avez publiés sont quand même jamais des écrivains très connus, il me semble.
Alors ça, c'est drôle parce que quand je vais dans des salons du livre, des marchés de la poésie, les gens me disent « Oh, vous publiez que des auteurs connus ». Alors je leur dis « Mais attendez, quelqu'un qui est, par exemple, Jean Grenier, quand on publie un texte de Jean Grenier, bon, il y a un cercle de 600 personnes qui lisent Jean Grenier attentivement, mais ça va pas au-delà quand même. Quand j'ai publié le journal de Catherine Pozzi, il n'y avait pas grand monde qui la connaissait. Quand j'ai publié Mireille Havet, il y avait 5 personnes ou 10 personnes qui connaissaient son nom. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Mais c'est souvent effectivement des gens qui appartiennent à la sphère de la NRF. Bon, ce n'est pas du tout le cas de Mireille Havet, mais Audy Berthy, Jean Grenier, Valérie Larbeau, oui, c'est le cas, Jacques Copeau. C'est souvent des gens dont on sait qu'ils ont fait une œuvre dont la partie immergée vivote plus ou moins, et dont on ignorait qu'ils avaient tenu un journal. Bon, voilà, ça suffit pour me laisser, moi, un domaine d'intervention et de publication qui justifie, je crois, complètement mon travail et qui fait que les auteurs que je publie, ils appartiennent presque à un corpus. Ils se lisent les uns par rapport aux autres. L'un appelle la lecture de l'autre. Et puis, moi-même, je les lis dans une sorte de... Alors, je vais éviter d'employer le mot de famille, mais dans un...
Trop tard.
Dans un domaine qui est le mien, quoi, qui est celui que j'ai formé. Depuis 87, donc, j'ai essayé de publier un certain nombre de livres. J'ai fait quelques erreurs. Il y en a d'autres que j'ai vraiment essayé à toute force de récupérer. Et puis, depuis que je publie sous mon propre nom, donc depuis 96, c'est vraiment là pour moi que tout commence. Parce que le vrai travail que je fais, ce qui a beaucoup d'importance pour moi, en faisant tout du début jusqu'à la fin, sauf imprimer matériellement mes livres, en gros, et les brocher. Mais tout le reste, je le fais Tout ça, je le fais depuis que je suis mon propre maître avec ma propre maison d'édition. C'est là où s'exerce vraiment le métier d'éditeur et où je pense que je le fais entièrement. Et ça n'a plus cessé. Est-ce que j'ai pas envie que ça cesse un jour ? Oui, bien sûr, je songe, parce que c'est crevant, parce que, bon, je l'ai déjà dit, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est comme un automatisme chez moi. Je crois que je serais extrêmement angoissée si cela devait cesser un jour. Donc, c'est, voilà, j'ai un horizon extrêmement bouché. Version négative des choses, entièrement remplie version positive, de projets, de livres qui sont qu'on m'a suggérés, dont l'appareil critique commence, dont j'ai relu déjà une première version, qui sont près de la fin, qui sont éditables, qui sont là, que j'ai mis en page. Donc tout un train de publications est là devant moi.
Il y a des renoncements dans cette histoire ?
Oui, il y a un renoncement que je regrette beaucoup. Là aussi, je crois que j'aurais consacré plusieurs volumes. C'est le journal d'Henri-Pierre Rocher, que j'avais lu chez Ramsay, qui était un journal que j'adorais, à la fois parce que c'était un journal différent. C'était un journal très laconique et très sexuel. Et ça, c'était vraiment magique à lire. Et puis, pendant des années et des années et des années, c'est-à-dire que ça commençait en 1905, et ça devait aller jusqu'à... presque la Seconde Guerre mondiale, enfin en tout cas les années 30. Et vraiment, c'était un très beau journal, écrit dans toutes les langues. J'étais absolument prête à apprendre l'allemand pour y comprendre quelque chose. Bon, voilà. Et puis, le fils d'Henri-Pierre Rocher s'est arrangé avec un autre éditeur, qui est André Dimanche, qui a commencé à publier, je crois, 2 tomes du journal d'Henri-Pierre Rocher. Et puis pour l'instant, ça doit être en travail quelque part, en chantier quelque part. J'aurais pas fait plus rapidement, mais donc j'attends la suite, quoi. Mais c'est bien, c'est publié quand même. Et je l'aurais édité différemment, moi. J'aurais commencé par le début, par exemple. Alors que lui a commencé par les années Jules et Jim. Et ensuite, je crois, je me rappelle plus le deuxième volume, mais il a commencé par les années Jules et Jim.
Quel a été l'accueil qui a été fait à vos livres au début ou à la naissance de la maison d'édition ?
En général, mes livres sont très bien reçus et peut-être même trop bien reçus. C'est-à-dire que, par exemple, certaines correspondances que je publie sont des correspondances extrêmement ténues. Par exemple, la correspondance Léris-Pollan, il y a 10 lettres magnifiques dans cette correspondance, mais tout l'ensemble de la correspondance n'est pas aussi magnifique, mais l'ensemble est intéressant. Mais il y a eu une presse pour cette correspondance qui est un peu surdimensionnée, je trouve. Enfin, je ne vais pas m'en plaindre, c'est une grande chance que j'ai, qui tient, je pense bien sûr à mon nom, je pense aussi qui tient au fait que j'édite sérieusement ce que je fais et que, voilà, c'est une image toute faite que les gens me collent avec facilité et j'en suis bien contente. Dire les très beaux livres de Claire Pollan, très bien édités. Et puis après, il y a les gens qui lisent vraiment sérieusement les livres et qui y trouvent de l'intérêt, ou qui font des critiques que j'entends de détail et qui ne sont pas forcément élogieuses. Donc ça me va très bien. Moi, je trouve qu'on parle suffisamment de mes livres quand ils sortent. Mais il y a toujours un moment de latence entre le moment où les critiques reçoivent les livres, ou le public aussi, directement, et le moment où, où les premiers articles sortent, où les premiers retours de lecture arrivent. Et pour moi, je traite ça à peu près de la même manière. Pour moi, c'est la réception du public, hein, qu'elle soit professionnelle ou pas. Là, il y a toujours un temps comme ça qui dure 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, qui est comme du temps suspendu. Je me rends compte que je suis en attente d'un dialogue, de quelque chose qui se passerait.
C'est une attente qui est angoissée.
Et par exemple, pour Mireille Havet, je jouais gros, moi, en publiant le premier texte de Mireille Havet, parce que je l'avais tiré à 4000 exemplaires. J'avais publié une année intégrale, mais une seule année du journal, pour voir un peu ce que ça donnait. Et comme c'était quelqu'un de complètement inconnu, je me suis dit, soit ça marche, soit ça marche pas. Et donc j'avais fait vraiment beaucoup d'efforts pour accompagner la sortie. Et pendant un mois, il ne s'est rien passé, mais vraiment rien. Et là, j'étais quand même, au bout d'un mois, j'étais très très inquiète. Et puis tout d'un coup, ça a été trop. Bon, c'était très bien, mais ça a été trop parce que j'ai été débordée, parce qu'il n'y a, a pas eu un article, puis un autre. Il y a eu 3 articles en même temps, puis le lendemain, il y en avait de nouveau 3. Et puis les commandes des libraires ont commencé à affluer, et moi j'étais là en train de faire mes paquets, mes factures, et de courir à la poste. Bien sûr, je ne pouvais absolument rien faire d'autre. Voilà, c'était un peu corps de raide. Bon, en même temps, c'est très agréable, parce que le succès, qui est la corde raide motivée par le succès, personne ne peut s'en plaindre. Moi, je continue à avoir de l'amitié, aussi incroyable que ça puisse paraître, pour ce milieu, parfois même de l'estime. J'y ai beaucoup d'amis, peut-être aussi parce que je ne demande rien à ce milieu-là. J'ai des amis que j'aime et que j'aime depuis longtemps, avec qui je m'entends bien, avec qui on peut parler littérature, on peut parler livres, on peut parler de choses qui nous intéressent, et on peut aussi porter un jugement sur ce qui est en train de se faire et voir l'évolution.
C'était La vie privée des éditions Claire Polan par Béatrice Leca, avec Claire Polan, Edmond Thomas, imprimeur à Bassac, et Michel Butel, écrivain, qui vient de publier L'Enfant aux éditions Melville. Coordination Marianne Chassor. Prise de son, Pascal Baudin et Hervé Desjardins. Mixage, Éric Boissé. Réalisation, Anna Smuk. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 décembre 2004.